Entre nous soit dit, la conversion écologique avec Cyril Frey. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François écrit « S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. » Voilà un texte étonnant, un texte qui relie crise extérieure et conversion intérieure et qui associe la conversion au Christ à une conversion écologique. Alors pour parler de la crise d'abord et de cette conversion, nous recevons avec nous Cyril Frey. Cyril Frey, bonjour.
Bonjour.
Cyril, vous êtes un drôle d'oiseau, enfin vous êtes un ornithologue de formation, un spécialiste de l'environnement, des écosystèmes, et vous travaillez depuis 20 ans dans différentes ligues de protection de la nature, notamment la ligue de protection des oiseaux. Alors la première chose, c'est qu'est-ce que fait un ornithologue et comment est-ce que l'ornithologue que vous êtes, entre le commencement de sa carrière, puisque maintenant ça fait un certain nombre d'années, et aujourd'hui, a-t-il vu des modifications, des transformations, et peut-être a-t-il pris de plein fouet, d'une certaine façon, ce phénomène de crise, et de crise même d'extinction des espèces?
Alors, le métier d'ornithologue, particulièrement en association, ça consiste principalement à effectuer des relevés, des recensements des espèces qui sont présentes sur tel ou tel territoire, puisque les services de l'État n'ont pas la possibilité de faire ça partout. Donc, on fait appel à ce tissu associatif qui va déployer un certain nombre de méthodologies bien précises en fonction de ses objectifs, que ce soit pour suivre l'évolution des populations d'une espèce très menacée, ou au contraire, essayer d'avoir une estimation de l'évolution globale des oiseaux les plus communs, ou d'autres espèces que les oiseaux d'ailleurs, ou encore de suivre cette fois-ci un site selon une logique géographique, où on sait qu'il y a des enjeux particuliers en raison de la richesse ou de la fragilité d'un milieu, pour justement faciliter le maintien de la biodiversité sur ces sites. Et donc, année après année, nos recensements nous amènent à mettre en évidence, de manière assez précise et assez rigoureuse, des effondrements de la plupart des groupes d'espèces, de ce qu'on appelle des taxons, au sein de la faune sauvage, que ce soit oiseaux, amphibiens, mammifères, reptiles ou les divers invertébrés.
Et alors, est-ce qu'il y a des oiseaux que vous aviez rencontrés au départ en abondance et qui ont disparu? Qui sont réduits à l'état d'espèces extrêmement menacées?
Oui, tout à fait. 20 ans, ça paraît long. C'est pourtant assez un temps qui nous a permis de mettre en évidence des effondrements pour des espèces. Je pense notamment au moineau friquet, qui était le moineau un peu campagnard, mais qu'on trouvait aussi aux abords de nos villes. En l'espace de 20 ans, il est passé du statut d'espèce commune qu'on s'intéressait à peine à noter, à celui d'espèce quasiment disparue. Ceci en raison des transformations du milieu rural qui lui ont été imposées par l'activité humaine. Mais on a aussi différentes espèces d'hirondelles qui ont connu cet effondrement, et un nombre de plus en plus important d'espèces communes qui faisaient partie de notre quotidien, même le moineau domestique de nos villes. Justement, c'est depuis 20 ans, depuis 1998, que les Britanniques ont signalé les premiers effondrements, et aujourd'hui, toute l'Europe est touchée. Donc, même ces espèces qui avaient l'habitude vraiment de vivre à nos côtés depuis des millénaires sont en train de quitter la scène à très grande vitesse.
On devient ornithologue par fascination des oiseaux et en se disant qu'on va en voir, et puis en fait tout d'un coup, dans le contexte actuel, on est plutôt confronté à une absence, en fait, à une absence de vision, à une dévastation.
Oui, qui est bien sûr très variable d'un territoire à l'autre. C'est sûr qu'habitant en région lyonnaise, donc dans des milieux qui sont sous l'influence d'une agglomération d'un million et demi d'habitants, je vois forcément des milieux beaucoup plus dégradés que ce qu'on peut observer en Auvergne ou dans le bocage normand. Mais les régressions se manifestent absolument partout. Et du coup, on ne peut pas ne pas s'engager. À l'origine, nos associations ont été fondées par des gens qui aimaient simplement observer et qui se sont retrouvés dans l'obligation de se mobiliser parce que ce qu'ils aimaient voir dans la nature, ce qui était l'objet de leur émerveillement, disparaissait et ils ne pouvaient pas se résoudre à cet état de fait.
Curieusement, c'est un engagement qui ne vient pas de politique, mais de contemplatif. C'est-à-dire de gens qui, justement, peut-être ne voulaient pas s'engager, se tourner vers la nature, et donc, on pourrait dire, quitter la cité, se désengager du combat politique, et tout d'un coup se retrouvent forcés à revenir, au fond, à l'engagement politique, parce que leur contemplation est blessée, quoi.
Oui, c'est vrai que la défense de la biodiversité, à l'origine, n'est pas vraiment un projet politique. Ça a d'abord été dire stop en quelque sorte aux pelleteuses, ça et là, pour aménager, créer un monde moderne et en même temps vivable, en même temps respectueux de la biodiversité. À certains moments, certains seuils de dévastation ont été franchis, qui ont donc mis certaines personnes en mouvement, qui ont décidé d'agir pour maintenir ces écosystèmes, cette vie sauvage, à un niveau raisonnable. Et ceci, beaucoup plus en travaillant de manière technique, typiquement en posant des nichoirs ou en replantant des haies, plutôt qu'en essayant de porter un projet politique, ce qui, vraisemblablement, leur apparaissait comme une réponse à un peu trop long terme. La priorité, quand on est face à un milieu riche qui va être détruit par un projet d'aménagement, c'est d'apporter des arguments et des solutions pour que le milieu soit ne soit pas détruit, soit fasse l'objet de compensations ou de réaménagements qui font qu'on sauvera l'essentiel en termes biologiques. Et c'est ce qui fait que le combat n'a pas pris autant de dimensions politiques que d'autres engagements écologiques.
Alors, quelles ont été les transformations récentes, que ce soit du milieu urbain ou du milieu agricole? On a parlé du moineau, friquet ou domestique, une espèce qui a vécu finalement avec l'homme pendant près de 10 000 ans. Les moineaux ont été les compagnons, les commensaux même de la table, on pourrait dire, humaine. Ils ramassaient nos miettes, etc. Et c'est très récemment, en fait, c'est sur des quelques décennies qu'on a eu un effondrement majeur. Quelles sont les transformations qui ont causé cet effondrement ?
À partir des années 50-60, quand on a disposé d'énergie abondante et pas chère et des machines qui allaient avec, on a eu un bouleversement radical des milieux ruraux, urbains, mais quand même surtout ruraux. Jean-Marie Pelt, je crois, de mémoire, disait qu'un agriculteur des années 50 aurait beaucoup mieux reconnu son terroir s'il l'avait vu dans son état de 1750 que dans son état actuel. On a eu des transformations extrêmement radicales avec la disparition de la moitié des prairies, des trois quarts des zones humides, des trois quarts des haies, ce qui fait qu'on est passé de paysages avec des petites parcelles, avec beaucoup de végétation spontanée, que ça soit des hautes herbes, des arbustes, des bosquets, des haies, avec aussi des petits cours d'eau qui vivaient leur vie, qui méandraient à leur aise au milieu des parcelles, à des parcellaires, ce qu'on appelle remembrés, donc où toutes les parcelles ont été réunies en énormes blocs, les haies ont été enlevées pour ne plus gêner le travail des machines, les cours d'eau ont été recalibrés et transformés en simples rigoles, de sorte qu'on a fait disparaître la quasi-totalité des milieux qui pouvaient être exploités par la diversité des espèces qu'on avait autrefois. D'autre part, les pesticides qu'on a employés massivement ont fait disparaître une bonne partie de la flore spontanée, ainsi que des insectes, qui étaient aussi des bases de la chaîne alimentaire. Donc, la plus grande partie des espèces qui étaient nos commensales, et celles plus éloignées, ont perdu très brutalement, en l'espace de quelques décennies, le gîte et le couvert, dans des proportions inimaginables. Et en ville, c'est un petit peu la même chose, avec des nouvelles formes urbaines où on ne laisse plus pousser un seul brin d'herbe pour faire propre, où la circulation automobile est reine, donc avec de grands axes routiers, une grosse mortalité de faune directe par collision, aussi une rupture des territoires, hein, traverser une rue pour une souris ou un insecte, c'est littéralement traverser la mer Rouge. Et puis là aussi, disparition des insectes par entretien, disparition des cavités qui étaient utilisées dans les immeubles par certains oiseaux. Et donc finalement, là encore, des milieux très simplifiés, entretenus de manière très intensive et hostile.
Le béton, le verre, lisse, il n'y a plus les pierres.
Le béton, le verre, au lieu des vieilles pierres. Et finalement, toute cette faune n'a plus sa place dans une indifférence quasi générale.
Vous avez évoqué, je vous avais entendu une fois parler du pare-brise autrefois. Autrefois, quand on roulait sur quelques centaines de kilomètres, on avait des insectes qui venaient frapper le pare-brise. Il fallait nettoyer le pare-brise. Et maintenant, il n'y en a plus. On sait que depuis, il y a eu ce livre très célèbre, Printemps silencieux, hein, où justement, on n'entend plus les insectes tout d'un coup dans la nature. C'est une disparition qui se joue aussi à ce niveau-là. Et alors, quelle est son importance? Après tout, on pourrait dire que l'homme, il y a plus de faune sauvage, les espèces sont de plus en plus domestiquées, parce qu'il y a quand même aussi une multiplication de certaines espèces domestiques. Quel est le danger pour nous?
D'abord, d'un point de vue très pragmatique, les scientifiques nous disent que tous ces écosystèmes, toute cette vie sauvage, nous rend un certain nombre de services dont notre économie finalement dépend dans des proportions telles qu'on évalue ces services à l'équivalent du PIB planétaire. Voilà, ça c'est la réponse très technique.
Voire plus, certains disent davantage.
Plus. En tout cas, c'est le même ordre de grandeur. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation encore de dépendance complète à l'égard des écosystèmes, même si on ne s'en rend plus compte. Que ça soit la pollinisation d'une grande partie de nos cultures, que ça soit l'épuration des eaux, que ça soit le maintien de la terre en place contre l'érosion dans les zones montagneuses, que ça soit les molécules qu'on va en tirer pour notamment l'industrie pharmaceutique, que ça soit le bois, que ça soit la régulation du climat. D'innombrables...
Le sable même, pour faire le verre ou pour faire les constructions de bâtiments.
Mais lui, il a été produit il y a quand même très longtemps. De même que le pétrole, c'est aussi un produit des écosystèmes, mais des écosystèmes du passé. Mais voilà, en fait, toute notre activité humaine a besoin qu'il y ait à l'arrière-plan cette vie sauvage qui existe et qui fonctionne. Et on ne peut pas se permettre d'enlever des éléments comme ça ou des pans entiers de milieu juste parce qu'on n'en comprend pas l'utilité. Au bout d'un moment, c'est nos cultures qui vont cesser de se développer, c'est nos forêts qui vont cesser de pousser, c'est tout ce dont nous dépendons qui va finir par dépérir. Donc d'un point de vue très concret, on serait déjà dans des difficultés épouvantables, contraints de compenser tout ça à coup d'apport chimique, à coup d'énergie, qui nous ferait immanquablement défaut. Donc il y a ce premier point pratique, on ne peut pas se passer des écosystèmes, c'est irréaliste.
Mais ça veut dire qu'un système s'est aussi élaboré qui oublie le donné originel de la création ou de la nature, comme on veut, c'est-à-dire le fait que tout n'est pas qu'une sorte de matériau surabondant qui serait soumis à nos caprices.
Oui, tout à fait. C'est un problème de perception qui est à la base de cette surexploitation. D'abord, on a cru que les ressources de la planète étaient soit inépuisables, soit renouvelables à l'infini, ce qui fait qu'on pouvait prélever comme bon nous semblait sans rien craindre. Ensuite, toutes les relations qui unissent les êtres vivants les uns aux autres, y compris nos cultures et y compris, in fine, nos animaux domestiques et nous-mêmes, toutes ces relations n'ont vraiment été découvertes qu'assez récemment. C'est la science écologie. Et donc, on a
Je précise, elles ont été découvertes récemment sur le mode scientifique. Le premier temps de la science a été un mode effectivement analytique, où on extrayait les choses de leur environnement. Mais dans toute pensée on pourrait dire primitive ou symbolique, toutes les choses sont liées. Et justement, on n'osait pas trop toucher la nature et on n'était pas dans les pensées traditionnelles des amateurs de l'innovation parce qu'on savait qu'il y avait un lien entre telle espèce, je ne sais pas, d'oiseau qui venait nicher à telle époque et peut-être la fécondité des femmes. Et, peut-être... et donc, on sentait qu'il y avait une sorte de cohérence sans... Voilà, bon, c'était sous une mentalité non scientifique au sens de la science moderne. Donc, il y a eu une époque antérieure à l'apparition de la science où on avait ce sens de l'interdépendance des vivants entre eux et on était dans un monde de résonance symbolique. Puis, la science produit de l'analyse et il va falloir beaucoup de temps pour passer du stade analytique qui délie, qui découpe et revenir au fond à la synthèse. Et c'est ça la vision de l'interdépendance que va restaurer l'écologie scientifique.
Oui, cela dit, je tempérerais quand même les beautés du passé parce qu'on sait que par le passé, faute de comprendre malgré tout dans quoi ils évoluaient, nos ancêtres ont pu provoquer des catastrophes écologiques locales, justement en prélevant, sans se soucier, sans donner une véritable portée concrète à cette pensée symbolique que pourtant ils connaissaient. Et tous ces précurseurs, comme pour les chrétiens Hildegarde de Bingen ou François d'Assise et Bonaventure, finalement n'ont pas vraiment eu d'écho dans la réalité.
Et, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas croire voilà. à des primitifs qui seraient en pure harmonie avec la nature. Il y a la question de l'île de Pâques, il y a les Maoris qui ont détruit toute la mégafaune et on a trouvé des grands barbecues où ils ont cuit leurs derniers oiseaux de 2 mètres de haut, mais en fait, après, il n'y en avait plus du tout. Bon, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Mais et du coup, la science a eu beau jeu ensuite, au XVIIe, XVIIIe siècle, de développer, d'en finir avec les approches traditionnelles et de développer une vision où, bah, finalement, en termes de prélèvement, tout est permis. Par contre, effectivement, maintenant, on découvre que dans cette approche qui voyait, qui percevait instinctivement les liens entre toutes créatures, eh bah, il y a une réalité qu'on découvre, sans faire de concordisme. On constate qu'il y a bien une réalité biologique, scientifique, qui correspond à tout ça. Et c'est l'occasion de renouer un petit peu pour nous tous ces fils ensemble et d'adopter une véritable sagesse, un véritable pragmatisme et en même temps un profond lien spirituel, cette fois-ci enraciné dans le réel, je dirais.
Alors, on peut dire que pour nous, il est important qu'il y ait des abeilles, parce que ce sont des insectes pollinisateurs et parce que une partie de même de la production des fruits, pas simplement du miel donc ou de la cire, ont une importance pour nous relativement aux abeilles. Mais est-ce que ça n'est pas encore un point de vue utilitariste? Est-ce que c'est ça la conversion écologique dont parle le pape? Parce qu'on peut devenir d'une certaine façon des éco-technocrates. C'est-à-dire que le but, c'est toujours d'exploiter les ressources et d'avoir cette logique d'exploitation. Sauf que là, on sait que les ressources ne sont pas illimitées. On sait qu'il faut laisser du temps pour le renouvellement. Mais la logique reste celle d'une exploitation modérée en vue simplement de la survie de l'homme. Et on reste dans cette perspective anthropocentrique. Est-ce qu'on peut en sortir de cette perspective anthropocentrique et utilitaire? Est-ce que l'écologie permet de sortir de la vision technocratique?
Effectivement, il faut de toute façon en sortir, sinon au bout d'un moment, on sera dans l'impasse. On trouvera toujours des marchands de gadgets techniques pour nous dire qu'ils ont trouvé une solution pour remplacer les systèmes vivants et que finalement, toute cette utilité des services rendus, eh ben, on va arriver à s'en libérer. Donc, ce paradigme, on doit effectivement en sortir. Et c'est là qu'on doit commencer à parler d'éthique et de morale et de dire que ces écosystèmes, ils ont une autre valeur que simplement de nous servir et qu'on doit les respecter pour ce qu'ils sont, donnés gratuitement, extraordinaires dans leur foisonnement, dans leur diversité, dans ce qu'ils sont capables de produire en termes de nouveautés constantes et de subtilités, indépendamment même de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est une démarche qui, en plus, renoue avec, pour le coup, l'émerveillement originel de l'ornithologue et forme, je dirais, une ouverture au monde qui est très libératrice. Parce qu'enfin, on se sort du calcul, on n'est plus effectivement le froid technocrate, on n'est plus le businessman du petit prince là, qui compte les étoiles pour mieux les enfermer. Mmh. Est-ce que c'est une façon d'aimer les étoiles ? Eh ben, compter les oiseaux pour dire s'il y en a assez pour nous servir, c'est clairement pas la meilleure façon d'aimer les oiseaux. Donc oui, nous devons arriver, nous écologistes, à avoir un discours qui dépasse ce simple appel au service rendu, à l'utilité et finalement au danger.
Il est normal que l'homme cherche sa propre survie, mais s'il survit en tant qu'homme, c'est précisément pour pouvoir faire ce que seul l'homme peut faire, c'est-à-dire contempler d'autres espèces pour elles-mêmes, s'émerveiller comme les enfants le font lorsqu'ils ouvrent leur première encyclopédie des animaux et ils sont stupéfaits par la diversité des formes animales. C'est comme si chaque forme animale avait sa valeur en elle-même. Effectivement, c'est ce que l'on perçoit dans cet émerveillement. Et même, on peut aller plus loin, puisque même les formes disparues, d'une certaine façon, leur disparition nous est insupportable et on trouvera toujours des images du dodo ou des images du diplodocus, comme si l'homme était d'une certaine façon inconsolable de la perte de n'importe quelle espèce.
Chaque espèce est une d'un point de vue pratique, une réponse à la question « comment survivre ?». Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est cette diversité et la façon qu'a le vivant de créer des solutions complètement improbables. On trouve par exemple 9000 espèces de coléoptères sur un seul arbre en Amérique centrale. Donc 9000 façons d'habiter un arbre, une espèce, quand on est un coléoptère. On imagine le degré de finesse de cette subtilité. C'est une autre créativité que nos start-up. Les faunes disparues en sont aussi un exemple. Le vivant produit des solutions tellement géniales, tellement incroyables dans leur côté alambiqué, dans ce qu'elle représente aussi en termes de lien entre espèces, qu'on pense à la symbiose, aux coévolutions qui engendrent par exemple la fameuse orchidée abeille, qui imite la forme d'une abeille pour attirer le pollinisateur. C'est un tel prodige de voir cette dynamique à l'œuvre, cette évolution à l'œuvre, cette créativité permanente qu'on est naturellement porté à rendre grâce, donc c'est là.
Mais alors, j'ai quand même une remarque, c'est deux termes, créativité et solution au problème comment survivre. Est-ce que le premier discours n'est pas encore un discours, je dirais, fonctionnaliste, utilitariste ? Est-ce que la multiplication des formes vivantes ne peut s'expliquer que par des solutions à comment survivre ? À ce moment-là, toute forme vivante aurait pour finalité, on pourrait dire exclusive ou première, son autoconservation. Ou alors, est-ce qu'il y a une sorte de créativité dans le vivant ? Ou bien sûr, chaque forme a des fonctions et lui permet de survivre. Mais c'est toujours la conservation de cette forme qui est visée, pas la conservation en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi une créativité du côté de la forme. Pourquoi il y a une telle diversité de formes de coléoptères ? Après tout, s'il s'agissait que de survivre, il pourrait y en avoir beaucoup moins. On ne peut pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas fonder d'une certaine façon l'immense diversité du vivant uniquement sur une logique de survie.
Non, tout à fait. C'est pour ça que la réponse froide de dire « c'est une réponse », bon voilà, ça c'est le constat glacial, objectif. Après, ce qui est extraordinaire, c'est que pour répondre à cette question « comment survivre ?», le vivant a choisi la voie du foisonnement, de l'hyperspécialisation et de l'invention permanente de nouveautés qui est aux antipodes de notre obsession de standardisation, du toujours pareil, du répliqué à l'infini, jusque dans nos animaux d'élevage qui sont quasiment des clones d'un point de vue génétique, oui. Ce qui d'ailleurs les rend très, très vulnérables. Il y a la diversité des formes, il y a d'ailleurs toute la diversité de la génétique. La nature, en fait, a une façon de répondre aux problèmes qui dépasse tellement
notre logique. Qui dépasse
la question,
on pourrait dire.
Voilà,
la question, c'était comment survivre, et la nature a répondu en disant voilà comment vivre, et même comment vivre presque poétiquement, en fait.
Oui, c'est clair qu'il y a une poésie dans cette créativité permanente, et aussi je trouve dans le fait qu'on ait aussi bien des nouvelles espèces qui apparaissent sans cesse, toujours plus complexes, que des formes extrêmement archaïques qui traversent les centaines de millions d'années inchangées, ce qui est d'ailleurs un peu un défi à tous nos désirs de hiérarchiser, de dire telle espèce est plus évoluée qu'une autre, donc elle est meilleure. Bah oui, mais la méduse, la toute simple méduse, elle réussit à se conserver inchangée depuis plusieurs centaines de millions d'années, preuve que la formule est géniale. Et néanmoins, la nature a eu l'idée d'en inventer des millions d'autres. C'est la coexistence des deux est quelque chose d'assez fabuleux.
Oui, c'est ça. Alors, à propos de cette question de dépasser, on pourrait dire, l'utilitarisme et de dépasser une écologie utilitariste même, éventuellement, qui au fond aurait des dehors de l'écologie mais resterait sur un fond de paradigme d'exploitation technocratique, il y a un passage de Laudato Si qui dit « Aujourd'hui, l'Église ne dit pas seulement que les autres créatures sont complètement subordonnées au bien de l'homme, comme si elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer à volonté. Pour cette raison, les évêques d'Allemagne ont enseigné au sujet des autres créatures qu'on pourrait parler de la priorité de l'être sur le fait d'être utile. » Et plus important, elles sont, c'est plus important que le fait qu'elles sont utile. Le catéchisme, en tout cas, ça ne veut pas dire que le fait d'être utile ne soit pas important, mais c'est plus important. Le catéchisme, ajoute le pape, remet en cause de manière très directe et insistante ce qui serait un anthropocentrisme déviant, et il cite le catéchisme, « Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. » Au fond, là, c'est dit de manière théologique. Ce que vous dites, on pourrait dire de manière plus existentielle, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas un mauvais usage désordonné, il faut qu'on n'ait pas simplement une vision qui soit celle que de l'usage ou de l'utilité, en tout cas, mais aussi qu'on reconnaisse cette diversité comme un bien propre, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que dit le pape dans ce point de l'encyclique se fonde dans plusieurs passages de la Bible, comme le psaume dit de la création ou certains chapitres du livre de Job, où clairement certaines espèces sont mises en avant comme totalement rétives à la domination par l'homme, et néanmoins, et même pour cela même, rendant gloire à Dieu dans leur apparente inutilité.
Toi qui as créé Léviathan pour qu'il serve à tes jeux, donc une sorte de bête de la mer, mais c'est juste le pur jeu du créateur.
Voilà, donc on a là de quoi fonder un respect en quelque sorte a priori qui ne va pas rentrer dans des logiques de calcul.
On pense à Moby Dick, justement, où l'idée, c'est que rendre Léviathan utile, alors on va le chasser, on va faire avec la graisse de baleine ou de cachalot, enfin des cierges, des choses, etc. Comme si il fallait tout ramener au paradigme de l'utilité.
Et prendre le contrôle de tout, assurer une domination complète, un contrôle de tout. En fait, ce qu'on a à comprendre de manière très pratique, c'est qu'il faut justement relâcher l'hyper-contrôle sur le monde vivant. Parce que c'est totalement mortifère comme approche. C'est ce qui nous amène à craindre de manière totalement irraisonnée le sauvage et son caractère apparemment anarchique, qui n'est qu'apparent, puisqu'en réalité, les espèces s'agencent selon un balai très bien réglé. C'est ce qui nous amène, plus que des considérations utilitaires d'ailleurs, à désherber nos trottoirs et à recalibrer les cours d'eau. C'est une volonté de maîtrise, une volonté d'hyperpuissance qui nous amène du coup soit à tout réduire à l'utilité, soit à éliminer ce qui est inutile ou hors de contrôle. On est encore beaucoup trop prisonniers dans toutes nos logiques politiques d'aménagement, dans tous nos arbitrages de cette volonté de contrôle, y compris dans certaines approches dites écologiques de gestion des espaces verts. On est toujours dans la gestion, donc finalement, même si on laisse une dizaine de tiges pousser, on a soigneusement délimité combien allait avoir le droit de pousser, combien n'en aurait pas, et on n'a pas relâché la bride finalement.
Mais alors, sortir du contrôle, ça c'est sûr, mais non pas sortir de la responsabilité. Il y a quand même une chose qu'on doit dire, c'est que souvent on pourrait se représenter, comme le font certains, un écosystème comme un système parfaitement à l'équilibre, toujours harmonieux, qui préserverait toujours la diversité des espèces et la plus grande diversité. Or, il y a eu des catastrophes d'extinction antérieures à la révolution industrielle ou même à l'apparition de l'homme. Et donc, l'écosystème n'est pas toujours à l'équilibre. Il y a des espèces qui disparaissent. On a parlé de la disparition des dinosaures. Voilà, à la fin du Crétacé, l'homme n'en est pas responsable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un danger après à dire on sort du contrôle et puis de tomber dans la logique de la mère nature, on la laisse faire et en la laissant faire, tout va bien se passer?
De toute façon, on ne peut pas se le permettre si on veut survivre, puisque nous aussi, on a droit à notre place. Mmh. Donc, on aura nécessairement une emprise et une empreinte sur les écosystèmes. On doit, nous aussi, tracer notre route et
mais
et
pas
se
seulement
faire une
pour
place.
Nous, on peut aussi, à la limite, on peut imaginer une situation où l'homme va préserver une espèce que des conditions naturelles pourraient faire disparaître, pas simplement des conditions artificielles. On peut imaginer la situation inverse.
On peut imaginer la situation, mais dans ces cas-là, alors on a, il n'y a pas vraiment de cas qui se présente actuellement à l'esprit, mais auquel cas, il n'y aurait pas d'interventionnisme. Justement, parce que ce que nous apprend la science écologie, c'est à discerner en pareil cas où est notre responsabilité et où nous n'avons rien à faire et où nous pouvons laisser faire les choses parce que, par une sorte d'effet tapis roulant, la vie va reconstituer d'une autre manière, d'une manière nouvelle, ce qui est en train de disparaître spontanément. Mmh. Là, actuellement, on n'est pas dans un cas comme ça où on chercherait à sauvegarder des espèces ou des formes dont la disparition est naturelle. Le problème, c'est que quasi plus rien, en termes de milieu notamment, n'est naturel à la surface du globe actuellement.
Alors, vous avez écrit, sous le nom de Johannes Hermann, avec Mao Hermann, donc votre épouse, un ouvrage intitulé « La vie oubliée ». Crise d'extinction, agir avant que tout s'effondre, qui est apparu aux éditions Première Partie, en lien avec la revue Limite, la revue d'écologie intégrale dans laquelle vous travaillez, enfin laquelle vous collaborez aussi. Agir avant que tout s'effondre. Dans quelle mesure faudrait-il agir? Quel est le type d'action donc qui est recommandé? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on va vers un effondrement et est-ce qu'on pourra empêcher un certain effondrement?
Alors je répondrai d'abord à la deuxième question parce que la réponse à la première en découlera. Actuellement, un certain nombre de spécialistes estiment que l'état des ressources naturelles, pas seulement vivantes, mais est tel que certains effondrements sont désormais inévitables. Alors, quels effondrements? C'est toute la question, parce qu'on ne sait pas, en fait, quel sera le facteur limitant, quel sera le premier endroit par lequel notre façon d'habiter la planète, notamment occidentale, notre niveau de vie occidental, cessera d'être tenable.
Il y a la question du pic de pétrole, voilà. Du pic des minerais.
Voilà, c'est peut-être un minerai qui va nous manquer, c'est peut-être l'énergie, c'est peut-être les événements climatiques extrêmes répétés qui vont provoquer des chocs migratoires parce que de très vastes et des zones très peuplées du monde vont cesser d'être habitables, ce qui déclencherait un chaos géopolitique général. Ou alors, ça sera au niveau de problèmes sur les pollutions des eaux, là encore sur des zones immenses. On ne peut pas encore savoir par où ça va craquer. Tout ce qu'on sait, c'est que notre façon d'exploiter le monde actuel n'est plus tenable et qu'on peut se retrouver face à des murs à l'échéance de quelques décennies. Donc, comment agir? Il y a différentes modalités qui doivent être déployées en même temps, d'un point de vue très, très pratique. La littérature, la presse fourmille de conseils d'action individuels, mais c'est surtout changer notre regard et vouloir sortir de la logique consumériste du toujours plus. C'est elle qui est derrière cette surexploitation, la croyance qu'on peut s'offrir une surabondance matérielle, alors que donc ce n'est plus le cas. Et pour s'arrêter, le plus simple, si on ne veut pas que ça soit complètement culpabilisant, c'est de comprendre que en sortir est une libération personnelle. Mais arriver rapidement aux changements politiques et économiques qui vont nous permettre de ralentir un peu l'effondrement, ça va nécessiter des engagements citoyens, politiques, pour dire « nous voulons un autre monde ». Il y a tout un foisonnement d'initiatives en ce moment, mais qui ne débouche pas du tout sur un projet politique commun, clairement identifié, clairement défini. On sait ce dont on veut sortir, il est beaucoup plus difficile de savoir vers quoi clairement aller. Et on est là aussi dans une grande incertitude.
Mais alors, quel modèle économique alternatif proposer ? Parce que généralement, les adeptes, on pourrait dire, de la fuite en avant diront qu'il n'y en a pas vraiment et que les alternatives, ce serait justement régresser vers quoi ? Vers un monde de la petite exploitation agricole, de l'économie familiale.
On va de toute façon devoir régresser en termes de niveau de vie, en ce sens qu'actuellement, celui que s'offre l'Occident n'est tenable que pour 1,8 milliard d'habitants. Donc, comme la pression démographique fait qu'il y a beaucoup plus qu'1,8 milliard de personnes qui, en théorie, vont vouloir revendiquer ce niveau de vie, on va se retrouver dans une impasse. Après, ce qu'il faut, je pense, leur rétorquer, c'est que ce n'est pas une régression, parce que c'est pas parce qu'on croule moins sous le superflu qu'on régresse. Ces formes avec une dépense d'énergie bien moindre et de ressources bien moindres peuvent être humainement beaucoup plus riches. C'est ce qu'expérimentent actuellement de nombreux éco-hameaux. C'est une façon d'habiter le monde beaucoup plus enraciné que de vivre à travers un écran. Et d'autre part, même d'un point de vue très technique, on ne parle pas de revenir au Moyen-Âge, puisque nous avons développé, notamment en agronomie, des connaissances qui nous permettraient d'avoir une économie beaucoup moins énergivore, une agriculture quasi sans énergie, et néanmoins capable de nous nourrir. Donc, ce n'est ni une régression, ni une fuite vers on ne sait quel pire, ni un nouveau Moyen-Âge qui s'étend devant nous. La donne est radicalement changée par toutes ces découvertes, par la connaissance aussi des expériences du passé, des impasses auxquelles on se sera heurté. Après, l'homme a rarement réussi à freiner avant le mur, donc là, on aurait quelque chose de tout à fait nouveau si on y arrive, mais ça commence déjà à s'inventer ça et là. Et alors, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on aura pu tenter pour éviter ou ralentir l'effondrement servira aussi pour la reconstruction, pour le monde un monde plus respectueux de la planète et de notre prochain qu'on cherche à bâtir aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il est vrai que, parce que les gens vous diront, pour les populations, à moins de sombrer dans le malthusianisme le plus terrible, il faut nourrir énormément de monde. Est-ce qu'il est vrai que les rendements de l'agroécologie ou, je sais pas, de la permaculture par exemple, peuvent être aussi importants que les rendements de l'agriculture dite conventionnelle avec les engrais chimiques et les pesticides, même si de toute façon, comme vous le dites, cette agriculture est dans une impasse, elle a pollué les sols, elle a détruit les nappes phréatiques, enfin bon.
Voilà, et elle ne pourra pas continuer elle à assurer ses rendements comme ça.
Voilà.
Alors, en ce qui concerne l'agroécologie et la permaculture, actuellement, sur le domaine précis du maraîchage, qui est quand même assez capital, oui, les résultats, les retours d'expérience sont très bons, et c'est une discipline qui ne cesse de progresser. Sur ce qui est des grandes cultures, c'est encore l'inconnu, mais d'un point de vue théorique, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on n'y arrive pas. Il y a des expériences en cours, je pense notamment à une présentation qui nous avait été faite par un agronome zambien, d'une culture de maïs en agroécologie, s'appuyant sur les plantes favorables aux prédateurs des ravageurs, par exemple, ce qui a permis à un village de retrouver l'autonomie alimentaire, alors que les tentatives de cultiver le maïs, on va dire à l'occidental, qui avaient été proposées par des agronomes canadiens, avaient débouché sur un épuisement complet des sols. Donc ils ont pu non seulement restaurer les sols, mais aussi restaurer l'autonomie alimentaire, et pourtant toujours avec cette même culture.
Vous êtes chrétien, et en même temps vous êtes dans l'écologie scientifique, vous êtes un scientifique de l'écologie. Est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre, ou enfin, je ne sais pas quels sont les s'il y en a un qui a précédé l'autre, mais quel est le rapport que vous faites entre les deux, c'est-à-dire entre l'écologie scientifique d'un côté et alors qui dont on voit qu'elle va vers un engagement et qu'elle devient une écologie politique, et ce que le pape appelle l'écologie intégrale ou la conversion écologique.
Alors. Le lien, je l'ai fait, c'est vrai, assez récemment par rapport à l'ensemble de ma carrière dans l'écologie. Ça fait seulement 7-8 ans que j'ai vu à quel point ce lien pouvait être fort et à quel point les deux, du coup, se nourrissaient mutuellement. Je pense que la clé principale, c'est l'émerveillement et l'espérance. L'espérance évite à l'écologiste de sombrer dans le malthusianisme ou alors une forme d'antispécisme consistant à dire finalement l'homme est le nuisible, le rapace de cette planète, autant qu'il disparaisse. Alors mes collègues non-croyants ne fomentent pas du tout l'extermination de l'espèce humaine. C'est plus un cri de désespoir devant l'état de la planète qu'on les entend pousser. Mais je vois de plus en plus difficilement comment fonder l'écologie sans cet émerveillement, sans cette éthique donc, que personnellement je fonde dans la parole de Dieu, qui m'amène à reconnaître une valeur propre à chaque créature, et donc à dépasser cette approche utilitaire.
Qui ont été voulues par Dieu, voilà, chacune voulue par Dieu.
Voilà, qui ont été voulues par Dieu. La biodiversité qui a été voulue par Dieu dans sa complexité, son caractère justement foisonnant, Et l'espérance aussi que nous ne sommes pas seuls face aux défis que nous avons à relever, et aussi le fait que nous pouvons croire en l'homme malgré tout pour comprendre, pour restaurer cette relation et pour agir à temps. Toute écologie en fait est tournée vers l'homme. Si on protège les espèces, c'est parce qu'on veut être là demain aussi pour les contempler et pour vivre avec elles. Donc même un écologiste non-croyant, même s'il n'arrive pas à le reconnaître, il travaille aussi pour l'homme.
Oui, l'idée d'une magnifique biodiversité ou d'une nature luxuriante sans l'homme, c'est une nature sans témoin, sans garant, qui n'est plus qu'une prolifération qu'aucun œil ne peut célébrer, on pourrait dire, la beauté.
Voilà, donc finalement, ça ne nous mène à rien et ça serait complètement désespérant. Donc, en tant que chrétien, je considère que ce n'est d'ailleurs pas le but de l'exercice. Le but du Créateur, c'est que nous soyons là pour habiter ce monde. Mais s'il nous a placés justement dans un monde où nous ne sommes pas la seule espèce vivante, où nous ne sommes pas autotrophes, comme un végétal capable de se nourrir littéralement de soleil et d'eau fraîche, c'est qu'il y a une raison. Et être écologiste et chrétien, c'est chercher à poursuivre cette œuvre, quoi. C'est ce qu'on appelle être co-créateur. Habiter le monde, c'est l'habiter aux côtés de tous ces êtres, en les respectant comme tels, comme voulu par Dieu, comme notre place elle-même, notre place très particulière est voulue par Dieu, et c'est ce qui fait avancer, en quelque sorte.
Mais alors, pourquoi y a-t-il, malgré tout, semble-t-il, et au début de cette émission, j'ai cité le pape qui en parle, des chrétiens qui sont engagés et qui prient, et qui, malgré tout, se moque des préoccupations pour l'environnement. Comment se fait-il que, finalement, on ne change pas d'habitude ? Vous avez des lieux de prière qui sont fondés sur, on pourrait dire, des grands rassemblements, sur beaucoup d'électricité dépensée, des sons et lumières, et puis la nourriture qui se trouve là, dans ces grands rassemblements, et de la nourriture industrielle venue des pires circuits de l'agroalimentaire. On pourrait vous dire, attendez, le christianisme, c'est d'abord la vie spirituelle, c'est ça ce qui se passe? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la résistance des chrétiens, d'après vous?
Alors, d'abord, les chrétiens sont des humains comme les autres, et donc ils ne sont pas exempts des mêmes tendances que les autres. Mmh. C'est-à-dire que, comme la plupart de nos concitoyens, on peut dire d'eux qu'ils ne croient pas ce qu'ils savent en matière de crise écologique. Comme les autres, ils sont face à un constat mis en évidence par la science, mais qui, quelque part, est tellement effrayant dans ses conséquences qu'il n'y a pas de réaction. Ça concerne absolument tout le monde, et eux comme les autres. Ensuite, je pense que la résistance principale...
On pourrait dire, non seulement il n'y a pas de réaction, mais il y a presque, comme c'est très effrayant, une mauvaise réaction qui est de se perdre dans le divertissement, et notamment de projeter ce grand écran de fumée, par exemple, que pourrait être, alors surtout chez les non-chrétiens, mais on pourrait imaginer autrement, mais le transhumanisme, enfin l'idée qu'on va vers un progrès qui va être un progrès d'hybridation de l'homme et de la machine, etc.
Oui, ça fait partie. Il y a d'abord, un certain nombre sont tout simplement tétanisés, d'autres persistent à croire que la technologie y trouvera toujours une parade. Peu nombreux sont malgré tout ceux qui placent leurs espoirs dans le transhumanisme. Ça fait quand même un petit peu tilter. Chez les chrétiens, il peut y avoir aussi une forme de quiétisme, de dire après tout, c'est pas le plus important, et puis on est tous déjà sauvés. Réaction que j'ai déjà entendue un certain nombre de fois. Oui, mais on est tous déjà sauvés. Néanmoins, quand on est malade, on va chez le médecin. Donc c'est pas vraiment une raison. Il y a chez les chrétiens cette crainte que l'écologie consiste à délaisser l'homme. C'est quand même la principale résistance, la principale objection. La réponse classique, c'est vous voulez sauver les crapauds plutôt que les hommes. Et là, voilà, il faut un long travail d'explication pour montrer l'interdépendance entre les deux, pour montrer que les uns et les autres échapperont à la catastrophe qui nous menace, ensemble ou pas du tout. Mais ça commence quand même à changer rapidement, et typiquement les grands rassemblements en question sont de plus en plus les lieux où les chrétiens expérimentent des actions de réduction de leur emprise écologique. C'est peut-être aussi le plus simple et ce qui exige le moins de remise en question générale. Mais voilà, il y a une façon de bien comprendre ce que ça signifie, l'homme sommet de la création, de comprendre que c'est pas incompatible avec l'interdépendance biologique, écologique. Au contraire, que ça nous met en situation de responsabilité face aux écosystèmes, et que non, on cherche pas à rabaisser l'homme au rang de l'animal, mais bien à lui donner au contraire son plein rôle de gardien et d'intendant de la création.
L'enjeu, au fond, plutôt que cette opposition stérile entre un humanisme intégral qui a existé à une époque précise, c'est-à-dire où le grand combat, c'était le combat contre des systèmes totalitaires qui réduisaient l'homme à une sorte d'individu dans un grand rouage, dans une grande dialectique de l'histoire. Donc on a voulu insister sur la liberté de la personne. On a été, et toute l'anthropologie chrétienne s'est déployée dans ce sens-là. Donc on peut comprendre que ce fut une époque, et puis même face souvent au soviétisme, il y a eu autre chose, vous n'en avez pas parlé, mais aussi, on pourrait dire, une forme d'attelage important entre les chrétiens et une certaine droite libérale, on pourrait dire. Est-ce que ce n'est pas aussi cet attelage très, très fort qu'il y a eu dans la résistance au danger soviétique entre le christianisme et le libéralisme?
Oui, dans la mesure où l'écologie, pour diverses raisons, s'est ancrée politiquement à gauche et donc a été vue comme, en quelque sorte, un cheval de Troie du communisme. De fait, L'écologie telle qu'elle est mise en œuvre actuellement, les mesures de protection émanent souvent de l'État, les normes émanent de l'État, donc ça a pu être vu comme une doctrine ennemie de la liberté d'entreprendre, de la liberté de produire, de la liberté de réaliser du profit, et une limite insupportable à cette liberté. Donc là, c'est clair que ça n'a rien arrangé. Maintenant, bah, il faut arriver à revenir à la base et comprendre que les postulats de la science sont apolitiques.
Merci Cyril. Je rappelle que vous avez écrit sous le nom de Johannes Hermann avec Mao Hermann un livre intitulé « La vie oubliée, crise d'extinction, agir avant que tout s'effondre » paru chez Première Partie. Et merci de nous avoir rappelé que ça n'est pas diminuer l'homme que de le renvoyer à sa responsabilité à l'égard des autres vivants, et que c'est là que se joue la vraie seigneurie divine. C'était « Entre nous soit dit », la conversion écologique avec Cyril Frey et à la technique Thomas de Gallon. Merci et à bientôt.